fait énormément jaser. Je pense que Télé-Québec aussi a assez discuté. Il a affirmé que PSPP contribuerait à vouloir enfermer les femmes dans leur rôle de mère. On en parle avec Marois Risky, qui est députée indépendante de Saint-Laurent. Madame Risky, bon matin.
Bonjour.
L'indépendance, ça fait en sorte maintenant que vous pouvez utiliser votre jugement puis dire, même s'il n'est pas dans mon équipe, Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas un homme négatif à l'égard des femmes au Québec, là.
Ah ben attention, je l'ai toujours fait, hein. J'ai toujours été quand même très objective de tous mes vis-à-vis. J'ai un immense respect pour chacun des députés. Puis j'ai travaillé, j'avais même un trio là, avec Véronique Yvon et Christine Labrie. Donc moi, je suis capable de faire mon travail tout en reconnaissant le travail des autres. Ça m'a jamais rien enlevé de souligner l'excellence des autres.
Y a-t-il plusieurs modèles?
À la défense des autres.
Ouais, y a-t-il plusieurs modèles comme vous à l'Assemblée nationale qui font fi du parti puis qui décident de parler quand même et défendre les autres?
Oui, il y en a. Je vous dirais, évidemment, c'est pas la norme, mais c'est sûr, c'est pas la norme. On va se le dire, là, c'est une joute politique pour plusieurs. Ça dépend aussi, j'ai le goût de le dire ainsi, de l'ego de chacun.
Il y a de l'ego en politique?
Ben, écoutez, au pied carré, il y en a plus que la moyenne des ours. Alors, une fois que j'ai dit ça, moi, je vais vous avouer que c'est, depuis samedi, ça m'a énormément fait réfléchir, non seulement sur l'infertilité, mais aussi, moi, dans une autre vie, avant de faire le soin politique, j'étais professeure à l'université, j'étais invitée pour commenter, mais je commentais des sujets que je connaissais. Puis j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a du monde là, qui parle et qui parle et qui parle, mais que c'est pas du tout leur créneau, et qui s'aventurent, ou même qu'ils s'hasardent à répondre sur des questions très complexes, alors qu'on a des professeurs-chercheurs qui ont étudié les phénomènes de natalité ou plutôt de dénatalité. Alors, pourquoi qu'on n'invite pas justement ces experts qui, eux, c'est leur niche pour justement les entendre et nous expliquer de façon, je veux dire, intelligente, avec une expertise nichée, pourquoi qu'aujourd'hui au Québec, depuis maintenant quelques années, on voit notre taux de natalité année après année baisser pour atteindre un creux historique de 1,33 enfants par femme. Et j'ai entendu samedi des mots, moi, qui m'ont fait vraiment réagir. À plusieurs reprises, le terme qui a été utilisé, c'était « produire des enfants ». Et il y avait des parallèles très boiteux avec l'obscurantisme, l'époque de Maurice Duplessis. Écoutez, honnêtement, là, je pense pas qu'on puisse dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il s'inquiète du taux de natalité au Québec, qui nous fait basculer plus de 60 ans en arrière, et qui va avoir des nouveaux fonctionnaires, des nouveaux curés qui vont aller dans les chaumières, vous dire, vous avez combien d'enfants, faites-en plus. C'est pas ça du tout la question. L'enjeu que nous avons, c'est que dans les statistiques, dans les sondages, quand on interroge les femmes, dans un monde idéal, combien d'enfants aimeriez-vous avoir? Le chiffre, c'est 2,1. Alors que présentement, même si les femmes souhaitent en moyenne avoir 2,1 enfants, on est à 1,33. On devrait étudier comment on fait pour passer de 1,33 pour atteindre l'idéal souhaité, désiré par les femmes. Pas pour, et je cite, l'occupation de territoire, produire de la main-d'œuvre. Non, non, le désir, tout simplement, d'avoir un bonheur familial avec des enfants. Parce que le bonheur familial, on peut l'avoir en passant sans enfants. Moi, je connais des couples qui sont très heureux, ils n'en ont pas d'enfants, et c'est leur choix, je le respecte, leur choix. Mais d'autres, que ça passe aussi, qui veulent entendre dans leur maison le rire des enfants, qui souhaitent devenir maman, qui souhaitent devenir papa. Puis moi, je trouve ça beau. Et je trouve ça encore très beau d'entendre ces gens-là. Mais par contre, je trouve ça malheureux lorsque Guillaume Rousseau pose la question au professeur Brouillette, mais il y a des femmes qui en veulent des enfants, c'est quoi la statistique? Il connaît même pas la statistique en question, que c'est 2,1. Alors, des fois, peut-être que c'est mieux. Quand c'est pas votre créneau, vous n'êtes pas obligé de faire une chronique là-dessus.
Ouais.
Ou, à tout le moins, allez vous renseigner.
Est-ce qu'il y a un fonds de Québec solidaire là-dedans, des gens qui sont dans l'entourage de Québec solidaire, sans en faire partie, mais qui voient Paul Saint-Pierre Plamondon être au sommet actuellement dans les intentions de vote, puis qui essayent de gruger petit peu par petit peu pour que Québec solidaire puisse peut-être remonter puis être un parti reconnu à l'Assemblée nationale?
Ah ben, écoutez, je prêchais par l'exemple. Je ne le sais pas. J'ai pas fait d'enquête là-dessus. Je connais pas les allégeances des différents chroniqueurs, leurs acquaintances non plus. Je fais pas de recherche là-dessus. Moi, je pars pour la prémisse que lorsqu'on vous donne l'occasion de vous exprimer sur dans un média, comme par exemple, moi, en ce moment, j'ai le privilège d'être avec vous. Puis je m'adresse non seulement à vous et à votre équipe, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent. Alors, je suis très consciente que ça, c'est un privilège qui me permet d'apporter de l'information et d'arriver aussi avec des propositions. Mais ce que je souhaite, c'est aussi que les autres qui ont ce micro-là en prennent soin. Parce que dans le tweet que vous avez cité tantôt dans mon petit gazouillis, j'ai aussi dit il faut faire attention de ne pas venir cadenasser les discussions en lançant des épichettes.
Exact.
Pourquoi j'ai écrit ça? C'est que moi, quand j'ai écrit ma lettre, vous m'avez reçu à votre micro, j'ai écrit une lettre sur l'infertilité qui était dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Ça a été reçu, je vous dirais, là, de façon très, très, très favorable par la grande majorité de la population. Mais oui, il y avait une frange que, bon, là, Marois Risky veut nous retourner devant les fourneaux. Honnêtement, là, c'était à la limite du sophisme et de l'exagération. Et je tiens à dire à ces gens-là, soit dit en passant, j'ai un baccalauréat, j'ai deux maîtrises, j'ai un doctorat, j'ai travaillé pour un des plus grands bureaux canadiens en droit, je suis députée, je me sens très, très épanouie tout en étant maman. En fait, dans tout ce que j'ai réalisé, ma plus belle réalisation, c'est d'être capable, malgré l'infertilité, d'avoir des enfants, et je suis très heureuse. Une fois que j'ai dit ça, Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui a parlé de natalité, immédiatement, la réaction a été pratiquement épidermique. Même chose pour Éric Duhaime. Là, on est rentré dans des accusations de « Ah, c'est une bande de conservateurs de droite. Le contrôle de l'utérus. » J'ai jamais entendu Éric Duhaime, ni Paul Saint-Pierre-Plamondon, et ni, bien sûr, du temps passant, Bernard Drainville, qui est d'accord pour augmenter la couverture de l'infertilité, dire quoi que ce soit par rapport à ceux qui n'en veulent pas d'enfants. Au contraire, elle a dit « Votre choix », ils ont tous dit « Votre choix de ne pas en avoir, on le respecte. Mmh. » On s'adresse maintenant à ceux qui en veulent des enfants, mais qui n'y arrivent pas, soit pour des raisons médicales, l'infertilité, soit pour d'autres raisons qui sont économiques. Et ça, c'est important d'étudier aussi ces questions-là économiques pour comprendre pourquoi on n'arrive plus à en avoir des enfants, pourquoi qu'on n'arrive même plus, puis au-delà d'avoir des familles, là, j'enlève là, les enfants de l'équation, pourquoi qu'au Québec, on n'est plus capable de se loger. Comment se fait-il qu'on est passé d'un peuple qui avait comme slogan « maître chez nous » et qu'on est rendu à peine capable d'être un peuple de locataires parce qu'on trouve même plus de logement? Imaginez, là, comment c'est une grosse débat.
Non, en effet, c'est catastrophique. Puis justement, par texto 418-971-1021, les gens réagissent et c'est ce qui ressort. Ils disent « ben écoute, on peut pas avoir plus d'enfants ». Parce qu'on est étouffé, c'est le coût de la vie qui nous étouffe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir renverser cette tendance-là, justement, pour qu'on passe de 1.3 à 2.1 au niveau du coût de la vie?
Mais c'est d'accepter qu'il va y avoir, oui, et moi, j'applaudis là, avec les deux mains présentement, les politiciens qui restent, en politique, moi, je quitte, mais je suis contente qu'il y en a qui restent et qui arrivent avec des propositions. Paul Saint-Pierre-Plamondon, il dit, mais regardez-moi, dans mon équipe, je suis allé chercher une infirmière qui est doctorante en politique familiale. Moi, là-dessus, honnêtement, je ne vois pas pourquoi que les gens sont énervés là-dessus, qu'ils sont fâchés là-dessus. Au contraire, ça prend des futurs élus qui ont différentes perspectives, différentes expériences, puis aussi différentes recherches. Moi, je suis pour la pluralité des voix. Je suis contente d'avoir aussi Charles Millard qui s'intéresse à la question, d'avoir Éric Duhaime qui s'intéresse à la question, et qui vont arriver, eux, chacun avec leur plan pour voir comment qu'on peut s'assurer que le coût de la vie soit de retour abordable, parce qu'il est loin d'être abordable, tant au niveau du logement qu'à l'épicerie. Tout le monde se sent étouffé. Puis là, j'excuse évidemment les gens qui sont très, très fortunés. Les autres, l'inflation, ça fait pas grand-chose dans leur vie. Mais pour le commun des mortels, c'est vrai qu'on n'y arrive plus. Ce n'est plus normal d'avoir autant de Québécois qui vivent de paye en paye. Et écoutez, là, les statistiques sont choquantes. Ouais. Là, qu'on est toujours à une paye là, pour beaucoup d'entre nous à être sur le bord de l'insolvabilité. Ce stress-là, ça cause de l'anxiété et on doit l'étudier. On a des professeurs chercheurs au Québec et je pense à, par exemple, Marie-Louise Lehoux, qui est une professeure à UQAM, qui, elle, étudie ce phénomène depuis des années. Moi, je rêverais qu'on lui donne à elle aussi le micro. Justement, elle aurait été très utile à cette table ronde samedi dernier.
Plus avoir des gens en onde, des gens qui savent plutôt que des gens qui pensent, ça serait peut-être, ou du moins avoir un éclipse, ce serait beaucoup mieux. J'écoutais au 99.5 hier à l'émission d'Isabelle Maréchal, Ricardo, le chef cuisinier Ricardo. Il m'énerve, Ricardo, il est bon dans tout. mais il parlait des gens qui avaient besoin des banques alimentaires. Ce serait une personne sur trois, donc 3 millions de personnes par mois au Québec qui ont besoin d'une banque alimentaire ou d'aide supplémentaire. Et de ce qu'on comprend, c'est 35 % qui sont des enfants qui ont faim. Mm-hmm. Si on veut mettre en place tout pour que les femmes puissent se sentir libres d'avoir des enfants, ben, à un moment donné, il faut nourrir le Québec au grand complet. Il faut s'organiser pour mettre des choses en place pour que les gens ne crevent pas de faim. Là.
Écoutez, c'est excessivement triste ces derniers chiffres là, où est-ce que Ricardo nous amène qu'on est environ 3 millions de Québécois qui vont dans les banques alimentaires. Et ce qui est encore de plus triste, je ne sais pas si vous avez vu passer dans les réseaux sociaux ce nouveau phénomène où est-ce que les gens vont dans les poubelles des supermarchés. Il y a aussi la question du gaspillage alimentaire, mais ça, c'est un autre sujet. Mais moi, dans mon autre vie, avant de faire la leçon en politique, je suis fiscaliste. Et je dois vous dire, on est excessivement taxé au Québec. Et ça va si on a les services qui viennent en retour. Mais on est très taxé. Là, j'inclus tout le monde, fédéral, provincial et le municipal. Chaque fois que un palier de gouvernement dit « Ah, mais moi, j'ajoute un 25 $ pour votre piscine. J'ajoute les poubelles. Ah, vous êtes limité à 13 par année. Après ça, je vous facture. Vous allez recevoir une autre facture de 400 $. » Chaque fois que vous ajoutez une taxe, un frais, appelez ça comme vous voulez, vous n'aidez pas. Vous alourdissez encore le fardeau fiscal et ça fait en sorte que les gens n'y arrivent plus et on sent qu'il y a vraiment en ce moment une écœurantite aiguë. Chaque frais supplémentaire, chaque taxe, chaque ponction, elle est trop lourde. Il faut revoir notre système fiscal, mais aussi toutes les, ce que moi j'appelle là, des petites mesurettes à gauche puis à droite, où est-ce que ça me prend plus de fonctionnaires pour remettre de l'argent dans les poches des Québécois que de tout simplement alléger directement à la base le fardeau fiscal et de faire confiance que la meilleure personne pour gérer son argent, c'est le citoyen. Et si on veut vraiment aider les enfants, là, il faut aller directement dans des mesures fiscales que nous savons fonctionnent. Que ce soit, par exemple, le crédit de solidarité, que ce soit l'allocation pour enfants. Ça, c'est des mesures qu'on peut aller directement cibler les bonnes personnes. Mais je pense également aux aînés. Moi, je suis excessivement inquiète pour les aînés parce que eux, dans leur cas, leur revenu, là, il n'y a pas de possibilité d'accroissement, là, en règle générale, sauf si, par exemple, un cas fortuit arriverait dans leur vie. Mais si la tendance se maintient, eux, leurs revenus vont toujours être en décroissance de par l'inflation, mais ça devient très difficile pour eux de se loger. Je ne sais pas si vous avez un parent qui doit être bientôt placé en résidence pour aînés. Regardez les prix.
Bon, les coûts sont exorbitants. Là. C'est à se demander.
On parle de 3 000 $ par mois. Là.
Exact.
C'est énorme. Là. Alors que leur pension de sécurité de vieillesse, là, ça ne couvrira pas ça. Là, ouais. Je vous le dis tout de suite.
La plupart des gens
vont se ramasser. Où est-ce qu'on doit réfléchir là, à comment on est capable de s'assurer autant que les jeunes familles puissent y arriver, que les travailleurs, mais aussi nos aînés. Moi, je pense qu'on a vraiment ici, on doit avoir des politiques familiales, et j'ai le goût de dire des politiques fiscales qui nous permettent de vraiment enfin souffler. Là.
Parfait. D'accord. Marois Risky, c'est toujours un plaisir.
Ça fait vraiment plaisir. À bientôt.
Au revoir. Bye bye.
Salut.
L'exceptionnel Marois Risky qui est avec nous, député indépendante de Saint-Laurent. On a discuté de plein de sujets franchement intéressants. Le podcast va être disponible dans les prochaines minutes au blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard. Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez ça. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde. Sur la route, Max?
C'est encore problématique. Là. L'accès aux deux ponts direction nord, c'est tough. En 4 sud, encore difficile. Puis ça, je reviens toujours à la même affaire, là, mais les travaux qui coupent une voie dans les deux directions, là, direction nord, le matin, je veux dire, c'est normal, ça arrive, mais direction sud, c'est rendu aussi une norme entre le boulevard Wilfrid Hamel et le chemin Sainte-Foy, là, c'est bien au ralenti.
Merci beaucoup.
Pour nous informer de